chiffres pour peut-être, mais le nom me semble résumer le statut de la parole à l'époque de la Bruyère. Voilà, j'ai fini, je m'arrête.
Grazie Maria Teresa Biason, penso che ci sarà qualche domanda o richiesta di ampliamenti. Ma per incominciare vorrei dire qualcosa io. Trovo molto interessante questa denominazione intertestuale, per così dire, che hai illustrato specialmente all'inizio. Ho l'impressione, però non potrei dimostrarlo, vorrei sapere da te se hai fatto la ricerca, che ci siano già dei precedenti negli epigrammisti e già persino in quelli latini. Cioè dell'uso di nomi già... diciamo così, connotati e magari antifrasticamente.
Intendi dire che già, che già qualcuno ha usato dei nomi già usati?
Per esempio negli epigrammi latini spesso il titolo è il nome del personaggio. Molte volte ho l'impressione che ci sia un nome, per esempio, epico per un personaggio vigliacco, cose di questo
sì,
genere.
Sì, ecco, certamente, certamente la Bruyère intendeva fare, allora c'è un senso, diciamo, c'è un altro senso supplementare, cioè uno dei tanti sensi che possono venire dall'uso di questo tipo di nominazione. Allora, certamente la Bruyère intendeva rinnovare un genere letterario, quello della letteratura morale. Ho detto che il testo si situa ai confini, proprio ai margini della letteratura sapienziale dell'epoca, della letteratura e anche della letteratura morale dell'epoca. Quindi intendeva rinnovare il genere con il nome. Intendeva rinnovare il genere e ha pensato senz'altro agli epigrammatisti, che imita per certi versi in maniera abbastanza divertente. Diciamo che mentre, non so, nell'epigramma la finalità è quella di un... l'epigramma è sempre un rinvio all'inizio, è sempre un rinvio all'inizio, e quindi il significato comico è ottenuto dopo quel momento di attesa che è appunto il ricorso all'inizio. Ecco, in questo caso invece il rinvio costante, anche in casi che sono al di fuori dell'ironia, il rinvio costante ad un luogo unico da cui sono prelevati i nomi, e soprattutto il rinvio ad un luogo extratestuale, mi sembra che vada al di là della volontà di rinnovamento del genere, cioè di introdurre dei passaggi, diciamo così, epigrammatici in un testo di riflessione morale. Capisci? Mi sembra che vada, voglia veramente qualche cosa di più che non un rinnovamento, che non ottenere un effetto stilistico. Perché, questo te lo posso dire subito, innanzitutto i nomi sono abbastanza numerosi, non molto numerosi rispetto al corpo, ma sono abbastanza numerosi, e ci sono dei casi in cui c'è il rinvio al luogo della fonte dei nomi è completamente, diciamo, privo di qualsiasi ironia, completamente serio. Quindi senza intenzioni, se non quelle di riprodurre un certo tipo di cultura dell'epoca, che è appunto quello di svalutare la parola del suo statuto, della sua immanenza, e di prenderla come segno di una verità che sta altrove, capisci? Non è solo una marca stilistica, ecco. Non so se ho risposto o se ho solo alluso, ma a me tutto sembra ovvio, diciamo, non vorrei...
credo che in questi casi le motivazioni siano plurime, molte volte ci può anche essere semplicemente una motivazione prudenziale, usare dei nomi classici, evita di alludere volontariamente o involontariamente a personaggi viventi o presenti, anche degli epigrammi di Fenoglio, dove mi pare che usa sempre o quasi sempre dei nomi classici.
Sì, sì, vedi, solo che capisco l'uso del nome che io chiamo fittizio, ecco, chiamiamolo fittizio, perché qualche rara volta non è classico. Ma vedi, è la motivazione che stupisce, ed è la motivazione, ti ripeto, seria come ironica, implicita come esplicita, e soprattutto come fenomeno onnipresente, che colpisce di più e che dà un senso che mi pare supplementare e abbastanza provato, insomma, sono non so.
Cependant, comme espèce de l'histoire, ici il y a des textes, puisque c'est un texte quand même présent, et un peu comme les romans qui s'y tiennent, qui sont aussitôt connotés dans un passé. Alors, ce que je me demandais, c'est est-ce que ça fonctionne pas à ce moment-là, un peu comme un enfant temporel de nom propre, c'est-à-dire est-ce que ce nom propre grec n'est pas un indice temporel, comme un aparté,
ça ne va pas contre le sens que j'ai dans mon texte. Et je vous répète encore une fois ce que j'ai dit à M. Hubert, que la motivation constante ajoute quelque chose à ce que vous venez de dire. Le nom grec, justement, mettait aussi bien le personnage grec, dans le cas de portrait athlète, que le texte à l'abri de la consommation immédiate. Le mécanisme dans l'interview de la physique. Il voulait signifier aussi que le texte reste. Le texte a un élément qui reste, qui a été déjà entendu et qui reste. C'est le cas du nom dans le texte sacré. Lorsque le texte sacré emprunte des noms qui existent dans la chaîne conceptuelle du langage, il dit. Vous savez, ton nom ne passera pas. Ton nom n'est pas insignifié en pur, ton nom ne passera pas. Il est lié justement au verbe, à cette puissance qui est en dehors d'un texte écrit même, comme voyait-elle à l'époque, et qui est censé rester et dominer l'homme. Il y a donc un effet d'étrangeté et même de permanence qui est donné par le choix d'un nom latin.
Je dirais
l'inverse,
personnellement, je dirais l'inverse. Le nom de la chaîne de la prière, on va parler d'un indice de qualité et de validité, disons, à l'instant.
Et c'est notre question de production, mais je vais te dire, est-ce que ça a été dit la chambre de presse. Mais ça, comme exemple extrême, la Torah, oui, il monde est généré un nom, exactement le proche. Le monde qui a questo significato, il nom est là.
L'unico nome che è significato, che è antologico. Sì, no, ma diciamo che è l'unico nome, allora è un'eccezione di fatto scopica, ma gli altri nomi sono tutti recuperati, Abramo, che non significa nulla, a partire dal momento in cui Abramo ha un figlio e quindi avrà una generazione, diventa Abraham, cioè conduttore di popoli. Quindi è un esempio come molti altri, diciamo, il nome di Dio è l'eccezione, ma troppo sono parte, pensa qual è l'importanza del significante proprio nelle lettere che non potevano mai venire usate, nemmeno singolarmente, nemmeno poteva essere pronunciato, cioè come significante era continuamente esorcizzato. Quindi questo è un esempio a parte, che sia un nome che crea la realtà, ma perché è l'unico nome che esiste come realtà autonoma. Gli altri nomi esistono solo come, diciamo, significante che raccoglie un significato già esistente in un altro luogo, cioè questa catena concettuale.
Tel comportement, c'est vraiment singulier. C'était.
Vous savez très bien que la singularité au moment de la prière est toujours cachée sous les complètement étouffée par le type. Vous savez très bien que le type est universel, la singularité n'existe pas. Les portraits athées sont rares, mais l'être, l'individu, n'existe pas. L'individu, au moins, il existe au moins en tant que type, c'est-à-dire comme individu appartenant à une classe 2, donc son individualité est annulée.
Grazie.
Vous voyez, je comprends que ce n'est pas convaincant une lecture de ce genre. Mais je comprends aussi que ça va dans le sens de la culture du temple de la bruyère. Ça va aussi dans le sens de la culture des temples de la bruyère, vous voyez. À part en fait les preuves que je crois avoir pour chaque nom, elle n'est pas en dehors des données culturelles de l'époque. Donc, c'est une raison de plus pour, à mon avis, pour le défendre. Je
vais d'accord. Non. Journée plutôt du colloque consacré au nom propre. La journée, je pense, s'organiser à peu près de la façon suivante. Nous allons écouter tout d'abord la communication du professeur Roger Pagonetti de l'Université de Genève, le contredit de François Mignon, puis l'exposé de Madame Marie Bonafé de Paris. C'est bien ça. Des lettres manquantes au nom du petit Hans, et enfin de professeur de Légère de Toronto, The Intentional Function of Naming and the Semantic Structure of Kafka's The Trial. Cet après-midi, trois communications, Julia, Mélanie et Cornille, nous allons commencer très précisément cet après-midi à 4h30 pour pouvoir terminer à 7h30 et organiser de façon très simple une commémoration de Roman Jakobson. Après quoi, donc à 20h30, le centre offre cette cena fredda à l'ancien collège, c'est-à-dire au Collegio dei Cappuccini. Alors je donne tout de suite la parole au professeur Pagonetti, le contredit de François Villon.
J'aimerais tout d'abord préciser un peu la démarche que je compte suivre. Le premier moment de notre exposé portera sur les différences fonctionnelles entre les deux œuvres majeures de François Villon, c'est-à-dire le Lai et le Testament. En un second temps, nous examinerons le nom d'adoption de Villon et son fonctionnement dans l'œuvre en rapport avec ce renom, je montrerai, à conquérir dans le jeu de l'écriture. Troisième point, notre lecture voudrait montrer que l'enjeu de l'œuvre de Villon ne se dégage que si on se rend attentif aux rapports symboliques et surtout musicaux des noms dont il sera question dans cet exposé. En conclusion, il s'agira de montrer que la recherche de paternité dans l'œuvre de Villon est celle-là même d'une parité. Je veux dire par là la poursuite dans la langue une sorte d'équalitas, d'égalité rythmique. Personne n'ignore qu'on appelait traditionnellement le lait de Guillaume le Petit Testament, par opposition au Testament, au Grand Testament proprement dit. Cependant, Fillon refuse d'appeler testament le lait daté de 1456. Lui-même refuse, proteste contre cette appellation. Lors même que dans les deux cas, il s'agit de donations fictives. Alors, quelle est au juste au fond la raison de ce refus? C'est ce que nous voudrions très rapidement dégager en un premier moment. Disons tout d'abord que le lait est dicté par l'exigence d'un départ vers un pays lointain. Je m'en vais en pays lointain. Alors que dans le testament, c'est un agonisant qui prévoit sa propre mort. Quand de ce monde vous partez, le geste papillon joue la spoliation dans le lait est donc constitutif de l'acte nécessaire à une renaissance. Il s'agit de comprendre que Villon, déçu par la rhétorique courtoise de la prison d'amour, compte semer ailleurs et renouveler une langue dont la monnaie ne lui semble plus de bon aloi. Texte du lait. Et si j'ai pris en ma faveur ces doux regards et beaux sanglots de très décevantes saveurs, me transperçant jusque aux flancs, bien ont-ils vers moi les pieds blancs qui m'ont trompé, et me faillent au grand besoin, et manquent à mon grand désir. Planter me faut autre bon plan, et frapper en un autre coin. Il ne fait pas de doute que ce mitin marque très nettement l'intention de déverrouiller la clôture d'une rhétorique figée et inopérante. Du même coup, c'est aussi, comme nous allons le voir, le nom du poète incorporé à cette œuvre, dont la parole sonne comme une fausse monnaie, qui s'en trouve atterré. Ce qu'il vient à dire que le lait, muni de cette signature inauthentique, n'offre pas la validité d'un testament. C'est ainsi du moins que nous comprenons le refus de Villon d'appeler testament cet œuvre. Écrire pour Villon, ce sera donc abandonner un nom et un renom qu'il ne considère plus comme authentique. Et c'est pour des raisons du même ordre que dans le lait, Villon lègue, sous les métaphores des parures chevaleresques et de vieux vêtements, tous les ornements désuets des rhétoriques du langage établi. Et c'est bien dans cet éclairage que nous entendons le lègue adressé au père. Je laisse de par Dieu mon bruit, ma nommée, à maître Guillaume Villon, qui en l'honneur de son nom bruit. Dans le testament, la spoliation de l'écriture apparaît encore plus radicale, compte tenu du fait que Villon laisse au père, outre le bruit de son nom, le roman du pète au diable et sa librairie, mais laisse à d'autres destinataires certaines ballades qu'il a lui-même composées. comme s'il fallait montrer plus ostensiblement par là que l'écriture, comme texte testamentaire, produit son propre effacement. Toutefois, ces oppositions, lait, testament, direction vers la vie, vers la mort, signature fausse, authentique, spoliation rhétorique ou spoliation d'écriture, ne sont pas aussi séparées qu'on pourrait le faire croire. Ne perdons pas de vue que cette langue, constamment enjouée, dont les mots soustraient régulièrement au destinataire l'objet que le testateur fait mine de leur léguer, dissimule à un autre niveau le désir forcené d'un débarras linguistique que le poète ne cesse de récupérer à un autre niveau. Ce débarras, déjà amorcé dans certaines parties du lait, se radicalise dans le testament sous les espèces d'un contredit poussé, pour ainsi dire, à bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci, que le contredit, ouvrant l'espace rythmique de toutes les oppositions du discours et de ses catégories grammaticales, les exhibe fortement pour les annuler les unes par les autres. Cette destruction réciproque ne signifie cependant d'aucune façon que le sens des mots soit pour autant supprimé, c'est impossible, mais qu'il est comme suspendu de sa fonction courante, entroublié ou amorti, pour reprendre ici le langage du lait. Dès lors, le sens ne fonctionne plus que comme un des effets de la musique signifiante du discours. D'où résulte que le contredit rythmique, ou si l'on veut, la contradiction, appelle l'émergence d'une autre voix, celle qui fonde en retrait la sonorité cantative des mots comme bruissement de l'autre du sens. Car c'est essentiellement par les tours et les détours de cette contradiction que Villon tentera, en vain, de rejoindre dans l'écartage de ce bruit l'absurde d'une parole différente dont la voix, non celle de l'auteur, mais de la langue, est signifiante en son obscurité même. L'œuvre de Villon reste, dans son ensemble, illisible. Et non tant pour la distance qui nous sépare de son époque, et qui, comme le disait déjà Marot, rend précaire toute interprétation fondée sur des allusions à des événements historiques ou extérieurs à l'œuvre, mais plus fondamentalement, et surtout, par cette pile, cette ruse, dont le souffle corrosif, pressé par le frein de l'art au col de l'escolier, tourne en dérision tout ce qu'elle a peint, déjouant ainsi toute lecture univoque ou polysémique. Car, si l'antiphrase, procédé constant chez Villon, fait partie de son grand jeu, il faut bien voir aussi qu'elle n'est jamais séparable du rythme d'ensemble et qu'elle est entièrement gouvernée par la permutation des signes. Pour conclure ici ce premier propos, une autre remarque s'impose, elle nous permettra de mieux saisir la fragilité de ces divergences soulignées dans les deux œuvres. Ne pas cesser de se retirer, de s'en aller, de se dépouiller, bref, d'en finir. tel est bien le processus qui gouverne d'un bout à l'autre toute l'œuvre de Villon. Et en ce sens, la scène finale du testament n'est au fond qu'un terme fictif assigné à cette mort interminable que postule l'écriture du nommé François Villon. Autrement dit, cette mort est encore et bien évidemment le projet du vivant, du metteur en scène, du testateur, testateur agonisant, qui règle ses funérailles dans une écriture jouant sa propre disparition. Or, cette langue dont la réinvention part déjà dans le lait fait corps avec le nom de François Villon lui-même, dont la renommée est également à refaire. La conquête de ce renom que le texte tantôt rassemble, tantôt sépare, voire dissémine dans les acrostiches et dans les échos de cette signature à authentifier, se confond en dernière instance avec la conquête de l'anonymat. Rappelons tout d'abord que le poète qui se nomme et se renomme François Villon dans le lait et le testament est mentionné dans les archives de police sous le nom de François de Montorbier ou encore de François Desloges dit Villon. Or, il ne fait aucun doute que le nom de Villon fonctionne même dans le texte comme un surnom que le poète reçoit de son père d'adoption, Guillaume Villon, ou comme il est dit dans le testament, Guillaume de Villon. Voilà du moins ce que nous apprenons de l'œuvre. Car si l'existence d'un Guillaume Villon, chanoine du cloître de Saint-Benoît de Bestoulet, est attestée dans les archives, en revanche, aucun document historique ne mentionne cette adoption. Mais non, on est en droit de supposer que l'histoire de ce prétendu père adoptif se donne à lire comme une fable inventée de toutes pièces par le poète, au même titre du reste que l'introuvable roman du Paix au diable. Autrement dit, qu'il s'agit donc là d'une fiction, comme du reste est fiction la prison amoureuse, voire rhétorique, dans laquelle le personnage se trouve embourbé. Il est clair que toutes ces inventions sont fonctionnelles dans la logique structurale du contredit et que le poète qui a écrit le lait est aussi habile que l'écrivain du testament. Il n'y a là, en somme, qu'une mise en scène voulue de deux rhétoriques opposées, comparables à celles du roman d'Arose, bien connu par le prisonnier de main. Il faudra donc rendre compte de ces inventions, non pas en fonction d'un référent historique, mais à partir et exclusivement de la raison poétique du lait et du testament. Car reconnaître la sublimation d'un élément historique dans l'œuvre, c'est tout autre chose que de partir de celle-ci pour inventer un fait historique ou prétendument vécu. Quel que soit donc l'effet de réalité de ce personnage du père, il est bien certain que son nom, Guillaume, étymologiquement dérivé de Guille, pour faire forme au poète dont la ruse commande les pièges de son écriture. Car Lyot et Villon, il faut ici le souligner, ne sont que des doublets d'un seul et même nom dérivé de Guille, dont la racine remonte au germanique Fibula, ruse. Ce double V germanique s'est maintenu dans les formes Vio, 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 Vion. Il est devenu Utura dans les formes Vio ou de ses doublets Lyon, Lyon. Car tout se passe comme si la différence entre ces deux noms désignait ici étrangement le non identique de l'identité. L'autre du même, signe fissuré d'une généalogie verbale par où le poète se donne un double en fabulant un père imaginaire dont la parité se dissimule dans la différenciation verbale d'un seul et même signifiant de la guilde. Tel est bien la fable d'origine, la pieuse ruse selon laquelle le poète inscrit d'abord ce nom dans le lait. Villon, fils de la guilde, entendons bien au sens fort, fils de son œuvre. Villon, jouant avec le langage, poursuit une spéculation qui tente à mettre sur pied d'égalité le père, le fils et la mère, pour les arracher tous à leur contingence historique. Une fois que l'on aura débarrassé le semblant du legs de ses gloses anecdotiques sur le prétendu père adoptif, il reste le tour rusé d'une écriture littéralement miroitante. Rendre le nom de Villon à son renom, c'est pour le poète se débarrasser d'abord de ce nom d'adoption pour de ce même nom qui lui appartient pas en propre au poète lui revienne de l'autre langue. Je laisse de par Dieu mon bruit à maître Guillaume Villon, qui en l'honneur de son nom bruit, mes tantes et mon pavillon. Toute cette écolalie circulaire, gouvernée par la rime, bruit, bruit, Villon, pavillon, transforme d'une part en pur effet des dissonances l'égalité dans la renommée du père et du fils, et d'autre part, nie cette égalité dans le jeu de mots Villon par Villon. Du même coup, le nom du poète se trouve libéré de l'héritage qu'il encombre quand ce nom résonne en l'honneur du père et se trouve rendu à la pure sonorité du pas rythmique. Et à la un bel exemple d'écriture intense que Villon exerce avec un art encore plus étonnant dans le testament qui est par excellence l'écriture de la parité, de l'équalitas, et dont le processus libérateur se désigne constamment par un verbe. C'est le verbe laisser. Ce verbe, qui gouverne toute l'économie de l'écriture destinale du poète, outre le sens d'abandonner, léguer, rejeter, inclut l'idée d'une sorte de freinage d'un art de resserrer les mots comme dans une laisse liée par l'assonance. Tel est le travail travail qui consiste pour le poète à faire acte d'authenticité littéraire, lors même que cet acte se joue dans l'espace de la parodie et de la farce, disons plus exactement, entre la parodie et la gravité. Car si Lyon se dit sec et noir comme Escouvillon, c'est-à-dire comme un balai qui sert à nettoyer les fours à pain, c'est que l'acte de la plume qui dégrasse la langue souillée, acte à vrai dire désespéré, ne cesse pas en retour de noircir le nettoyeur de cette langue. Comment pourra-t-il jamais, en effet, enlever le noir de l'écriture par la plume ou l'escouvillon, qui en est de toute évidence la métaphore? Écrire ne va pas sans une accumulation de la noirceur des mots sur le papier, comme le laisse entendre Flaubert dans cette formule équivoque où le rejet de l'écriture, plus d'écriture s'écrit Bouvard et Pécuchet, dit simultanément le surplus d'écriture. Il faut encore écrire plus pour être assez. C'est pourquoi nous verrons de voir que le noir ineffaçable du Villon sec et noir déteindra toujours sur le nom du poète. Cependant, si le nom de Villon, comme nous venons de le voir, et il y aurait bien d'autres exemples, mais ce serait trop long de montrer, si le triste faillit plus noir que mur, et vous montant ville est et pire, etc., etc., si le nom de Villon, comme nous venons de le voir, désigne le père imaginaire de la ruse, ce double noir qui livre le poète à l'étrangeté de son désir, en revanche, le nom de François, dérivé de franc au sens de noble, de libre, rappelons-nous le portrait de l'escolier François, franc au collier, libre sous le jour, ouvre dans les mots un champ de signifiance en rapport avec l'intégrité du langage, sa franchise, la pureté, la courtoisie des mœurs, et bien entendu avec la noblesse de la francité, le royaume de France, portant dans son nom à jamais intact l'image d'un lieu sans soutien. Raison pour laquelle le poète François ne désire publier cette disposition testamentaire qu'au royaume de France, lieu unique et de l'unique, où la manifestation devient magnificence. Manifester, dit François, mais il ne dit pas manifester, il dit magnifester, selon le texte de l'édition Lyon, et de la veuve manifester, sinon au royaume de France. Son lieu est en somme celui de l'épiphanie de la présence divine, comme le laissait entendre Rudebeuf quand il disait « Si Dieu est nulle part et le monde, il est en France et c'est sans doute. » Désigner la beauté d'une langue, c'est la mesurer pour François à sa francité. Miss langage et bonce, car en France funée, dit encore Guerre de Pont-Sainte-Maxence. S'appeler François, c'est donc porter le nom d'une exigence de pureté intégrale, d'où résulte que le nom du poète en noir et blanc structure, comme on le voit, une antithèse inexpliquable. Notre lecture n'a d'autre but que de montrer que les noms de François et de Villon non seulement font partie du corps littéral de l'œuvre, mais y assument la fonction de métaphore conductrice d'une langue brisée en deux voix discordantes. Ensemble, une distance les sépare, insurmontable. Mais c'est aussi de cette distance, de ce lointain, que surgit la parole de l'autre, car le poète n'écrit que dans la fissure entre François et Villon. François, ce nom très noble imposé par la mère lettrée, est le seul authentique et de naissance. Par le rejet du nom d'adoption, le poète revendique, en somme, sa destinée d'enfant illégitime, à seule fin de libérer dans la langue maternelle toutes les virtualités du poète François, discipliné et libre à la fois, comme déjà le laissait entendre dès le début du lait, les altérations dans vertu. Je, François Villon, et puis l'altération, le frein au nom franc au collier. Toute l'étymologie dérive de François et le livre au métier poétique. C'est donc du côté de François, à distance de Villon, que le poète lit sa destinée, et, c'est-à-dire sa destinée et son métier rigoureux. Il lit cette destinée à la lignée virginale de la mère, dont l'une des figures associe le nom de la reine blanche au chant fascinant des sirènes. La reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène. Le nom de François porte donc sommation d'un affranchissement dont l'œuvre devrait relier François à la fleur de sa langue, promue certes par l'emblématique blancheur des Lys de France, mais dont la voix blanche vient de la reine ou de la mère. Le poète, auparavant sec et noir comme Escouvillon, rappelons-nous le lait, poursuit sa tâche de nettoyeur dans le testament. Livré à l'altération incessante des signes dans les jeux du semblant d'amour de la dame sans merci, le poète en dénonce l'imposture et le vertige. Abusé mal et fait entendre, toujours d'un que ce fut un autre, de farine que ce fut centre. La poésie d'amour, nous le savons depuis le lait, a déçu Villon. Mais le dévoilement de cette décevance appartient à l'espace d'une autre écriture. Renoncer au passé de l'aventure, renoncer au passé de la rhétorique courtoise, signifie pour Villon prendre le large de l'aventure, mettre, comme il dit, le plumail au vent, partir, une fois de plus, dans le testament, vers un horizon inconnu, car, au début du testament, il s'agit bien pour Villon de répondre à l'appel de François, dont le nom désigne au loin l'espace virginal de la langue blanche, d'où Villon pourrait renaître, blanchi. N'était-ce l'obstacle fascinant de l'ami tentateur qui fait croire au poète que le blanc est noir. Mon ami est qui me fait entendant d'un signe blanc que c'est un corbeau noir, et je pense à mon corbier. Ce jeu du contredit, dont les noms du poète renvoient à l'intensité d'une force signifiante, travaille à tous les niveaux, la parole toujours à double fil de Villon, témoin par exemple des vers dans le débat du cœur et du corps, qui est une altercation entre François et Villon. Je cite, mouche en lait. L'un est blanc, l'autre noir. C'est la distance. La mouche dans le lait, la tache noire dans le blanc, la mort dans la vie, Villon dans François, le signe blanc reflet d'un corps noir. En somme, toujours, un signifiant pour un autre, et l'éternelle vivacité de la langue, de l'autre, dans la métaphore, voilà ce qui emporte le poète, dans la plaque tournante des signes doubles, dont il nous fallait d'abord marquer quelques oppositions, avant de suivre leur cheminement maintenant vers l'égalité. Or, quelle scène voyons-nous au début du testament? La grâce d'un affranchissement offert par le roi de France au poète emprisonné à Meung. On reconnaîtra que la figure de ce père libérateur contredit rigoureusement non seulement la loi perverse de Thibaut d'Assigny, mais tout autant sous des apparences différentes, l'obscurité du père d'adoption livrée au sarcasme du fils orphelin. Ainsi, Villon maintient également le contredit entre les deux pères, d'une part, le roi de France rayonnant et l'obscur maître Guillaume de Villon. Certes, il ne s'agit pas de nier l'importance de cet événement libérateur tel qu'il est représenté dans le Testament, associé du reste à l'œuvre divine et à l'œuvre de Notre-Dame. Il faut seulement veiller à ne pas le couper du jeu d'écriture de Villon, dont la scène représentative n'est qu'un des aspects du travail.